VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RDC, Jean-Claude Muyambo, un opposant considéré par ses pairs comme un prisonnier politique, a été condamné à 5 ans de prison en appel par un tribunal de Kinshasa dans une affaire d'escroquerie. C'est ce qu'annonce aujourd'hui son avocat. Jean-Claude Muyambo a été reconnu coupable d'avoir vendu illégalement à son profit plusieurs immeubles appartenant à un ressortissant grec. Ancien ministre passé à l'opposition en novembre 2014, il avait été l'un des meneurs de la contestation de janvier 2015 contre le pouvoir du président Joseph Kabila. Au Tchad, réaction du procureur général suite à l'attaque des prisonniers en état de transfèrement de la maison d'arrêt de N'Djamena à celle de Korotoro. Un incident qui a fait 10 morts et 2 blessés. Pour le procureur Maoli Luapambe Bruno, les auteurs de cet acte ne resteront pas impunis. On l'écoute.
Condamnée à l'unanimité, cette attaque a aussitôt suscité le déplacement des autorités judiciaires, dont le ministre de la Justice et moi-même, et les éléments des forces de défense et de sécurité, qui ont fait un constat des lieux avant de lancer les recherches, tant en ce qui concerne d'abord et surtout les assaillants en fuite, et ensuite pour les détenus dispersés dans la nature à la suite de la dite attaque. Dans tout état de droit, un tel acte ne saurait rester impuni. C'est pourquoi, en sus de recherches lancées par les autorités, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'instance du tribunal de grande instance de N'Djamena pour identifier les auteurs de cet acte condamnable en vue de leur interpellation pour répondre de leurs actes. Car nul n'est au-dessus de la loi pour prétendre se soustraire des dispositifs répressifs mis en place par l'État. La justice de notre pays, en tant que gardien des droits et des libertés, se sent directement interpellée par une telle bavure et doit tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes.
Le procureur Maoli Luapambe Bruno à N'Djamena au Tchad. Violence en RCA, deux chefs de milice accusés de contribuer à l'instabilité dans le pays, maintenant placés sur la liste des sanctions économiques des États-Unis. Une décision qualifiée de message fort aux groupes armés en RCA. Jacques Aristide.
Le Trésor américain a ciblé Abdoulaye Hissen, leader de l'ex-Séléka, la rébellion à dominante musulmane qui avait renversé le président François Bozizé en 2013. Également sanctionné, Maxime Mokom, figure des milices chrétiennes anti-Balaka, qui avait lancé la contre-offensive après le coup d'État, provoquant des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. D'après Washington, ces chefs rebelles ont perturbé le référendum constitutionnel en 2015 et ont fragilisé en 2016 l'autorité du président Foster Kanje Touadéra. L'an dernier, Abdoulaye Hissen et un groupe armé avaient engagé des combats avec les forces centrafricaines avant d'échapper aux soldats de l'ONU. Les deux hommes verront leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés. Pour l'ONG américaine Enough Project, cette décision est une note d'espoir dans la lutte contre l'impunité, mais les sanctions, selon elle, doivent vraiment se traduire dans la réalité, particulièrement dans le commerce de l'or, du diamant et du bois centrafricain.
Au Burundi, la ministre de la Santé a déclaré l'épidémie de paludisme dans le pays. Ces trois derniers mois, 949 personnes sont mortes de la maladie et 1 800 000 Burundais ont été affectés. Le gouvernement dit avoir besoin de 32 millions de dollars pour combattre l'épidémie. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, s'est rendu au centre de santé de l'organisation Action de lutte contre le paludisme.
Au quartier Sokarti, dans Kamengé, au nord de Bujumbura, un dispensaire accueille de lundi au vendredi des enfants, des femmes et hommes qui viennent se faire dépister du paludisme. Cette infirmière fait état de plus de 52% de personnes malades de paludisme qui se dirigent quotidiennement à ce centre.
Le mois passé, c'était aux environs de 1915 patients qui se présentaient ici, mais le taux de pourcentage était de 52% et le total des patients positifs étaient 1011. Je pense que c'est une épidémie.
Pour le représentant légal de l'ONG Action de lutte contre le paludisme, Albert Mbonerane, s'il est vrai que le gouvernement burundais a déclaré la malaria comme une épidémie, il faut articulé son action autour de trois objectifs.
Il faut que les Burundais soient éduqués à la lutte contre le paludisme, que les Burundais sachent que le paludisme, c'est une maladie qui tue beaucoup de gens, mais qui guérit si on la traite comme il faut. Deuxièmement, il faudrait une sensibilisation régulière pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire pour se prévenir contre le paludisme. Troisièmement, il faut que le gouvernement investisse dans l'acquisition des médicaments essentiels, je dis la quinine, l'artésine Tamodiakine, mais que ces médicaments soient disponibles et gratuitement pour toute la population.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal, 22 morts et 87 blessés. Tel est le tout dernier bilan de l'incendie qui a eu lieu hier au Dakka de Medina Gounas, une retraite spirituelle qui réunit chaque année des milliers de musulmans dans la région de Koldar, 530 kilomètres au sud-est de la capitale. Plus de détails sur cette tragédie avec notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
Des pèlerins pris au piège des flammes, des tentes, voitures et marches occasionnelles entièrement calcinées. La 76e édition du Dakar de Medina Gounas a viré au drame. Un feu d'une violence inouïe s'est déclaré vers 16h et s'est rapidement propagé sur ce sanctuaire religieux. Largement dépassé par la furie des flammes, les sapeurs-pompiers, sous-équipés et en sous-effectif, sont finalement parvenus à circonscrire le feu après des heures de lutte. Le Dakar de Medina Gounas est une retraite spirituelle qui réunit chaque année plusieurs centaines d'érudits et des milliers de fidèles musulmans. Elle se déroule dans la zone forestière du parc Nyokolokoba et est fréquemment le théâtre d'incendies. Cependant, la gravité de ce nouvel incendie est sans précédent et les causes ne sont toujours pas connues.
Sédina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Au Bénin, c'est l'an 1 de Patrice Talon à la tête du pays. Un premier anniversaire marqué par la crise sociale et surtout le récent projet de révision de la Constitution, élément clé du programme d'action du gouvernement. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur-Adandé fait le point.
Marche de protestation, récrimination, coup de gueule, les médias se laissent submerger par les ronchonnements d'une population exaspérée par la misère ambiante, l'affaiblissement du panier de la ménagère, le climat des affaires qui s'est dégradé. À tout cela s'ajoute le silence du gouvernement qui communique peu et qui donne l'impression d'être insensible à la souffrance des Béninois. Deux fois déjà, le président est passé sur la télévision nationale pour inviter les populations à serrer davantage la ceinture et à s'armer de patience en attendant qu'il ne concorde un mais complet pour la satisfaction générale. Pour Eugène Azatassou, coordonnateur des forces Kori pour un Bénin émergent, cela n'a vraiment pas de sens.
C'est d'abord régler ses propres problèmes, arranger ses propres affaires. On est sans considération pour la population en général, parce que dans un pays, tout le monde ne peut pas être milliardaire. La conduite d'une politique, c'est prendre en considération cela et de lever le niveau d'ensemble pour permettre le développement.
Son collègue Valentin Dianotin est du même avis. Pour lui, depuis le rejet du projet de révision de la Constitution, le chef de l'État a montré qu'il ne veut gouverner qu'avec ceux qui l'acclament.
Comment en démocratie, à ce niveau de responsabilité, on peut offusquer à ce point parce qu'on pense que tout ce qu'on va amener, ça doit être oui, 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 mais non.
L'an 1 n'aura été d'aucun repos pour le chef de l'État qui s'est vu refuser par les députés la concrétisation de l'une de ses promesses phares. Le chef de l'État tire les enseignements de cet échec et dit fermer définitivement les pages de la révision de la loi fondamentale.
L'examen du projet donne la liberté aux députés d'amender comme ils souhaitent. Ils n'ont pas voulu. Ils ont bloqué pour le principe politique. Peut-être. Pour moi, c'est derrière. La révision de la Constitution initiée par le président Patrice Talon, c'est fini.
Pour beaucoup, l'obstination à tout remettre en cause pourrait mettre en échec l'actuel gouvernement qui ne veut pas tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'est le cas de Gustave Sonon, ancien ministre et député.
Il faut que les réformes soient beaucoup plus orientées vers l'esquisse d'une base solide que de dire, bon, tout ce qui était fait avant c'est mauvais, je rase, je repousse.
Tout au long de cette première année, on a reproché au président des expressions tendant à diminuer le peuple comme désert de compétences ou encore cette tendance à banaliser la fonction présidentielle. Le chef de l'État s'explique.
Le peuple m'a confié la direction du pays pendant 5 ans. C'est vrai, c'est une fonction difficile, mais je n'ai pas été élu que pour les honneurs de la fonction. J'étais le galant pour son côté difficile. À titre personnel, je m'en voudrais de dire que ce qui est la règle générale, qui ne va pas s'imposer à moi et aux autres, que parce que j'ai un idéal là-dessus, je vais avoir une position, un propos qui donne l'impression que j'ai une version pour la fonction. J'assume mes propos.
Et pourtant, il va falloir dépasser les clivages politiques et les sentiments personnels pour redonner foi et espoir au peuple béninois qui, dans sa majorité, semble ne plus se retrouver dans les promesses électorales du candidat devenu président de la République de Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Et pour terminer, la Russie a qualifié ce jeudi de profondément erroné la décision du président américain Donald Trump mardi d'approuver l'adhésion du Monténégro à l'OTAN, estimant que cette mesure fragilise la stabilité de l'Europe. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.